7h24. Hier matin, à 7h-ci, on faisait un peu le point sur l'opération délestage qui varie là un peu partout au Québec, mais prenez le cas du Grand Montréal où la pression est énorme sur le réseau de la santé. Encore hier, on a vu le nombre d'hospitalisations de façon globale augmenter. Et on assiste maintenant à des déplacements entre les régions des patients que l'on doit diriger vers d'autres hôpitaux. Et j'en parle ce matin avec Dr Alain Poirier, qui est le directeur de la santé publique en Estrie. Dr Poirier, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Alors, vous allez recevoir, vous avez déjà commencé à recevoir des patients qui arrivent de l'extérieur. Ça se passe comment, puis c'est aménagé de quelle façon?
Bien, on en a toujours eu. Hein. C'est un système qui existe depuis 2019, je crois. Donc, ça a commencé, ce système québécois avec le Grand Montréal. Puis, avant la COVID, ça avait commencé de faire cette coordination de transfert de patients. Donc, il y a une structure clinique, c'est un acronyme, tout a des acronymes en santé, mais c'est le COOLC pour la coordination et l'organisation des soins intensifs. Donc, c'est eux qui font pour tout le Québec, et pas seulement Montréal et l'Estrie, mais pour tout le Québec qui font ce transfert aux besoins, quand il y a des besoins. Soins intensifs, mais aussi des lits de spécialisation. Donc, on en a eu tout le long de la COVID, peut-être pas cet été, mais encore récemment, on en a, mettons, sur 74 lits, nous, hier, en date d'hier, je pense qu'il y avait 8 personnes venant d'autres régions. Je parle pas de lits de soins intensifs, mais de lits ordinaires. Il y en avait 7-8 qui venaient. Habituellement, c'est la proximité pour, évidemment, aider les patients. On va pas les envoyer n'importe où, mais nous, c'est nos voisins, là. Mauricie, Centre du Québec, Victoriaville, Drummondville et la Montérégie, essentiellement.
Et quelle est la capacité d'accueil là, et d'hospitalisation de ces patients qui viennent des autres régions?
Ben, je pense pas qu'il y ait de limite. C'est en fonction de nos capacités à nous. Nous, on a 74 lits de courte durée, 25 de soins intensifs. Le ministère a demandé partout. Les centres comme le nôtre, à Sherbrooke, sont désignés par le ministère pour faire cela. Et partout dans la province, les gens se sont fait dire ben, « augmentez votre capacité de 50% de plus ». Donc nous, on doit passer à 111 lits de courte durée. À ma connaissance, il n'y a pas une limite de dire combien sont pour l'Estrie, combien c'est à une fonction. Imaginons qu'on n'aurait à peu près pas de cas, ben nos lits sont disponibles pour accueillir tous les Québécois. Donc, il y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas de limite, mais voilà, c'est ça. On doit tous augmenter notre capacité.
Mais là, j'ai des gens de l'Estrie qui m'écrivent, qui me disent, est-ce que ça veut dire que si je prends des patients, par exemple, COVID, qui viennent de Montréal ou de la Mauricie, ben il y a du délestage chez vous pour être capable de traiter ces patients-là, bref, qui a un impact pour les patients locaux?
Oui, il faut être solidaire. Le délestage, c'est partout au Québec. Évidemment, il est encore plus actuel dans la région de Grand Montréal, s'il y a plus de cas. Mais donc, oui, ça se peut qu'il y ait des activités actuellement qui sont diminuées en Estrie parce qu'on doit faire de la place pour nous, mais pour d'autres aux besoins. Alors, ça fait partie de la solidarité du système de santé. On n'est pas, il n'y a pas de frontières entre les régions, donc on doit tous s'entraider.
OK. Comment ça se passe chez vous, l'opération de vaccination?
Ben plutôt bien. En fait, nous, le choix qu'on a fait, compte tenu, vous savez qu'il y a beaucoup de contraintes dans le déplacement du vaccin Pfizer là, qui est congelé. Donc, on a toujours, nous, le centre de foire à Sherbrooke, qui est juste tout près de toutes les grandes autoroutes au centre de l'Estrie. Donc, c'est là qu'on fait la grippe habituellement. Et aussitôt que ça a été fini, ben on l'a adapté avec le fameux congélateur spécial de Pfizer. Il y en a juste un en Estrie. Donc, c'est là qu'on l'a mis pour l'offrir à tous les travailleurs de la santé, puis sachant que l'autre vaccin, plus facile, Moderna arrivait, ben là, avec le Moderna, on a fait déjà la moitié du CHSLD. Donc, on a beaucoup avancé pour nos travailleurs de la santé. Beaucoup. On a donné les doses qu'on reçoit, on approche à 4000, puis d'ici une semaine, on aura pas tout à fait le double, mais presque de... Donc, à mesure que les vaccins arrivent, nous, les gens prennent rendez-vous. Au début, on gardait les doses. Quand on a commencé le 23 décembre, on gardait pour la deuxième dose. Puis quand on a eu la consigne, là, au passage du 1er janvier, la consigne de « vous pouvez l'utiliser », ben là, on a changé les rendez-vous. Les gens avaient déjà un rendez-vous pour leur deuxième dose. On leur a dit « pour l'instant, il y aura possiblement, comme tout le monde le dit, une deuxième dose, mais pour l'instant, cette deuxième dose, on la donne à quelqu'un d'autre. » Donc, c'est comme ça. On fonctionne, puis aussitôt qu'on reçoit d'autres arrivages du fameux vaccin Moderna, ben on prévoit que quand on les aura, là, qu'on va finir d'aller dans nos autres CHSLD. Il nous en reste à peu près la moitié.
OK, mais d'après vous, la deuxième dose serait administrée combien de temps après la première?
Bien, c'est assez facile à calculer. En termes de bénéfices, là, si on a 100 doses, on a 92% de protégés après 14 jours. Ça monte très peu. On va chercher 3 autres personnes de plus, 95, 3 de plus sur ces 92-là, si on donne une deuxième dose. Alors, imaginez si à la place, on donne à 92 autres, bien, au lieu d'avoir 95 personnes de protégées après 2 semaines, on a 184 personnes de protégées après 2 semaines. Donc, c'est-à-dire le 95, c'est après 1 mois, puis la nouvelle alternative, si on presque double le nombre de gens protégés. Fait que ça, c'est assez facile. Et ça, c'est pas des données inventées, c'est les données que la compagnie a fournies à Santé Canada pour homologuer le vaccin. Donc, c'est assez facile de faire ce choix-là. La compagnie dit, on peut pas le donner avant 19 jours, mais il n'y avait pas vraiment de limite sur le moment où on doit le donner. Et dans leur étude, ils allaient jusqu'à 42 jours avant de donner la deuxième dose. Si ça n'a pas été toujours pareil, ils essaient de faire ça le plus pareil possible. De sorte que dans l'homologation, ça peut aller jusqu'à 42 jours, ça c'est 6 semaines. Est-ce que ça pourrait être plus que ça? La plupart des experts pensent que oui. Et donc, actuellement, les recommandations des différents groupes d'experts, il y en a un Canadien, il y en a un Québécois, Anglais, même des États-Unis hier ont annoncé qu'ils vont faire la même chose. Ils recommandent de se dire, ben, on est en pandémie, c'est pas comme quand on vaccine, puis on dit, le meilleur résultat, personne par personne, c'est peut-être 2 doses, mais globalement, avec les chiffres que je vous ai donnés, le meilleur résultat pendant une pandémie, c'est de donner à tout le monde une première dose.
OK, mais je vais revenir sur l'essentiel du vaccin, parce qu'on a un cas à Montréal, dans un centre, les gens ont été vaccinés, première dose, et il y a 7 cas de COVID qui ont été donc diagnostiqués, des tests positifs. On dit dans la période de 28 jours qui a suivi la vaccination. Et là, le réflexe, c'est de dire, mais comment, si je suis vacciné, je peux avoir la COVID?
Ben, c'est assez facile à comprendre. D'abord, ça prend à peu près 14 jours, une fois que tu es vacciné, avant que tu sois protégé. Donc, en pleine pandémie, il est normal qu'il y ait des gens dont le vaccin n'a pas encore été efficace. Ça, c'est un premier cas de figure. Le deuxième, c'est que c'est pas 100% d'efficacité. On parle de, j'ai dit 92, 90. Ça veut dire qu'il y en a 10%, ça n'a pas marché. Le vaccin n'a pas bien fonctionné. Donc, c'est une autre source possible de cas. Et puis, chez les aînés, parfois, le développement, la capacité de développer l'immunité est un petit peu moins forte. Est-ce que c'est 90 ou 85? On ne sait pas vraiment. Puis, le troisième point, c'est qu'il y a beaucoup de gens parmi les vaccinés, mettons que les cas seraient survenus après 14 jours, oui, qui peuvent peut-être faire la maladie, mais on l'a vu dans des études, oui, il y a eu des gens qui ont fait la maladie, mais beaucoup moins fort. Donc, pas d'hospitalisation, pas de décès. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est normal je le dis, là, c'est pas juste ce CHSLD-là, ça va arriver pendant qu'on vaccine. Il va y avoir des gens qui vont avoir la maladie très tôt, donc qui n'ont pas encore été protégés, ou des gens chez qui le vaccin n'a pas fonctionné, ou des gens qui vont la faire légèrement sans être très malade. Ça fait que c'est toutes des raisons qui expliquent qu'on puisse trouver des cas, et on va en trouver. Mais c'est surtout beaucoup mieux que si on vaccinait pas. Donc, on n'a pas tous les détails sur ces 7 cas-là, mais avec tous les exemples que je viens de donner, c'est probablement que ça rentre dans une de ces catégories-là. Ils ont été moins malades, ils font partie d'un petit groupe alors qu'il y en a plein d'autres de protégés, ou alors c'est arrivé non pas au 28e jour, mais dans les 14 premiers. Donc, oui, il y aura des cas de COVID chez des gens qui ont été vaccinés, mais beaucoup moins que sans la vaccination.
OK. Je veux vous parler de directives de santé publique. Puis je vous donne 2 exemples. Le premier, ça concerne les écoles. On apprend ce matin, c'est dans Le Soleil, que le masque de procédure dans les écoles aurait dû être privilégié dès le début, dès la rentrée scolaire à l'automne. Et la raison qu'on ne l'a pas fait, c'est qu'on n'avait pas assez de masques pour tout le monde. Là, il y a des gens qui disent, ouais, mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait quand même? Pourquoi on nous dit ça maintenant? Est-ce que les avis de santé publique sont basés sur la science ou sur les stocks disponibles?
Faut que ce soit les deux, parce que la santé publique, c'est une science, oui, mais qui est appliquée. C'est comme quand on applique cette science-là. Une science que tu es capable d'appliquer, ça sert à rien quand on travaille dans une population. Quand on travaille avec des rats de laboratoire, c'est une chose, mais dans la population, il y a toujours ce lien entre ce que la science nous dit. Puis comment on peut l'appliquer? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que je dis ça? Il faut qu'on ait ça dans autant que possible dans toutes nos recommandations. Une fois que j'ai dit ça, c'est pas une science exacte non plus, parce que le virus, on le voit pas. Ne serait-ce que les mesures, deux semaines, deux mètres. Même le 2 mètres, c'est quoi la démonstration? C'est tout. En biologie, on a des processus continus. Hein? Plus on est proche, plus il y a des risques d'avoir d'infection. Est-ce qu'à 2 mètres, il n'y a plus d'infection? Je dis jamais. La réponse, c'est non. Donc, un processus biologique, c'est à un moment donné, on met une limite, 2 semaines. On met une limite, 2 mètres. Mais c'est pas comme ça que quand on est capable de faire de telles études, c'est pas comme ça qu'on arrive à un chiffre exact. Alors, si je reviens à votre question sur les masques, est-ce que c'est clair et net? Il y a des tests en laboratoire sur des masques. Est-ce que les masques, oui, ils bloquent 95% des particules. C'est ce qu'on appelle le fameux N95. Mais il est pas parfait. Le chiffre le dit, c'est 95. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, est-ce que les gens le portent bien? Est-ce que c'est confortable en termes de faisabilité? C'est pas si confortable que ça, porter longtemps en N95. Donc, pour chacun de nos données, scientifiques, c'est pas pour rien que les avis ont souvent bien des pages, c'est qu'il y a plein de nuances dans la façon de dire qu'on peut l'utiliser. Alors, pourquoi ne pas avoir porté de masque? Est-ce qu'il y en avait assez à l'automne? Ça, je me prête de vous dire, mais c'est évident que si on voit la situation actuelle, par exemple, dans nos CHSLD, nos résidences pour aînés, ben, les travailleurs portent des masques. Pourtant, il y a beaucoup d'éclosions. Donc, le masque, malheureusement, n'est pas parfait. Il améliore, puis même au mois de mars, ça a été long avant de dire, moi, est-ce qu'on crée, à l'époque, on disait, est-ce qu'on crée des fausses sécurités? Est-ce que les gens vont moins se laver les mains? Est-ce que les gens vont toucher leur masque? Malgré que un jour, on a dit, oui, je pense, puis je dis oui un peu en hésitant, on se rappelle, Dr. Arruda s'est lui-même posé la question avec les avis d'experts. À partir du moment où on a dit, oui, on porte le masque, est-ce qu'on a tout réglé? La réponse, c'est non. Donc, à l'école, compte tenu, il y a des éclosions, mais pas si catastrophiques. Hein? On pourrait y revenir. Actuellement, il y en a, si on regarde aux autres en Estrie, évidemment, les écoles ont été fermées, mais il y en a zéro. Puis celles qu'on a eues, elles se contrôlent avec l'école, avec les centres de services scolaires, avec tout le monde. Même le cégep et l'université, on a eu, je dirais, des bons résultats. Oui, il y a des cas chez les profs, mais rien de catastrophique au milieu scolaire. Au maximum, c'était quoi, 2-3% des classes qui ont été sans milieu. 3%, c'est pas beaucoup. Hein? La contrepartie, c'est 98% de nos jeunes pouvaient avoir la contribution si importante à leur vie éducative et leur vie sociale que d'être à l'école. Alors, voilà. Donc, à la question des masques, est-ce qu'il y en avait assez à l'automne? Je sais pas. Nous, on avait déjà commencé, d'ailleurs, en mai-juin, en Estrie. Ça allait mieux à ce moment-là. On avait commencé à recevoir. J'avais moi-même visité des écoles quand ça s'est installé. J'étais assez impressionné de la façon dont on avait une armée de profs qui travaillaient avec nous pour prévenir les cas chez les enfants. Alors, je pense qu'on a fait ça selon ce qu'on savait des règles de l'art. Puis comme actuellement, on veut, l'éclosion est partout, un endroit où on peut en faire plus, c'est demander à nos jeunes de porter le masque. Fait que c'est ça qui est la recommandation qui est sortie une dizaine de jours.
OK, j'ai une dernière question. Pardon, on a beaucoup parlé, je m'excuse, des tests rapides. Et Québec a dit non, c'est pas nécessaire de faire ça, on a assez de tests conventionnels, ils sont pas précis. Et là, j'ai des gens qui me disent, ouais, mais pourquoi si on les a, les 1 million quelques tests, d'aller dans les milieux comme dans les écoles, milieux de travail, faire un test rapide? On va peut-être en détecter des cas pour éviter que ça se propage.
Ben, vous l'avez dit, il est rapide. Le résultat est rapide, c'est vrai, mais ils se font un par un, puis ça prend du monde pour faire ces tests-là. Donc, il faut les déployer, il y a quand même une analyse à faire. Puis comme il n'est pas parfaitement fiable, dans plusieurs cas, il y a des projets pilotes en ce moment pour essayer de mesurer dans quelles circonstances ça pourrait nous aider. Par exemple, aller dans un endroit plus éloigné où ça va être compliqué d'amener le test en ville, faire le test dans un laboratoire, peut-être que là, ça peut nous donner un outil de plus pour contrôler une éclosion. Mais si je prends l'exemple de l'Estrie, nous, on l'a examiné sous toutes les coutures. Et puis, comme il n'y a jamais personne d'assez loin du laboratoire, puis que les capacités pour du personnel sont pas si extraordinaires que ça, on n'en manque pas de tests, ni de tests réguliers. Les résultats sont quand même assez rapides. C'est pas une heure, c'est vrai, mais on en fait des milliers dans nos machines à la fois, plutôt qu'un par un sur la fameuse machine du test rapide. Pour toutes ces raisons-là, nous, on continue de travailler. Peut-être qu'il y a des circonstances où on va dire, oui, on peut le déployer, mais c'est pas parce qu'il est rapide, c'est pas comme une bandelette de piscine, là, puis on met notre doigt dessus, puis tout le monde a le résultat tout seul à la maison. Si c'était rapide et simple comme ça, ça serait bien, mais c'est pas le cas. Donc, chaque région a le mandat de regarder dans quelles circonstances, parce que oui, c'est vrai, il y en a, de ces machines à test rapide, mais dans quelles circonstances ça pourrait nous aider. Puis nous, à date, Bon, hier, j'avais un rapport de mon comité qui réfléchit à ça. Peut-être qu'en projet pilote, ils réfléchissent à une situation, mais chaque région, compte tenu de ce que je viens de vous dire, doit examiner l'opportunité d'utiliser ces tests.
OK. Là, il faut que je pose la question, parce que, mettez-vous à la place des Québécois. En Ontario, hier, je comprends que les mesures, là, la santé publique, c'est pas une science précise exacte, là, mais on explique aux gens qu'ils peuvent être 5 à l'extérieur. Au Québec, je peux même pas là, aller prendre une marche avec vous tout en respectant le 2 mètres parce que je vis pas seul, vous non plus. Vous trouvez pas que ça, c'est dur à faire comprendre quand de vendredi, on annonce du soleil, on est enfermé, on respecte ça, de marcher avec un ami qui vit avec sa conjointe, puis moi, je vis avec ma conjointe. C'est quoi le problème?
Ben, dans une bulle familiale, là, avec votre conjointe ou quelqu'un qui vit, une bulle familiale, c'est pas juste conjoint. Si on vit ensemble, on est proche, on est à l'intérieur, puis on est ensemble. Donc, ça, on peut le faire. Si vous allez le faire avec un voisin ou une voisine, vous venez à 2 mètres, un masque, c'est pas recommandé selon les règles ici au Québec, mais il n'y a pas un policier qui va vous arrêter. Les policiers vont là où il y a des rassemblements et des groupes. Moi, j'ai posé la question aux policiers. Faites quoi avec ça? Demandez-vous la carte aux gens, leur adresse et tout. La réponse, c'est que non, ils peuvent pas faire ça. Puis sur le plan de la logique, vous avez posé la question, vous ne trouvez pas ça dur? Oui, je trouve ça dur. Mais c'est comme si à chaque fois qu'on a rajouté des mesures, on est en train de perdre le contrôle, il faut en rajouter. Et puis, pour vous, puis pour moi, puis pour le commun des mortels, des gens qui vous appellent, des fois, tu dis, ben oui, mais si je compare ça à tel autre, les enfants peuvent aller à la garderie, moi, je peux pas voir mes petits-enfants. Quand on les compare un par un, on peut se dire, ben, il me semble que la situation est moins pire ici ou là. C'est vrai. Mais quand on a fait quand je dis nous, là, nous, pas santé publique, mais nous, les citoyens, on a fait la démonstration au gouvernement. Regardez, le nombre de cas augmente, nos hôpitaux sont en train de se remplir, nos soins intensifs vont craquer bientôt, on manque de personnel. Ben là, on rajoute une couche. On rajoute une couche, puis ces rajouts-là sont durs, puis des fois, pas totalement cohérents avec, bon, l'Ontario, c'est 5, puis nous autres, c'est pas 2. Puis... Donc, quand on les regarde tous, oui, c'est clair qu'on peut trouver des contradictions, mais il faut aussi accepter que tout ce qu'on a fait à date, qui était peut-être pas tant que ça en contradiction, marche pas si bien que ça. Les cas continuent d'augmenter. Alors, il faut, comment dire, ravaler puis dire, bon, ben, je donne encore un effort. Le vaccin est en train de se déployer, puis on n'est pas en contrôle. Nos gens dans les hôpitaux sont brûlés dans le sens. Certains sont malades aussi.
Oui.
Certains sont retirés. Des activités pour les gens qui n'ont pas la COVID sont obligés d'être arrêtés, ralentis, reportés. Alors, pour tout ça, à un moment donné, on se dit, ben là, je n'irai pas prendre ma petite marche avec mon voisin. Je vais essayer d'y aller dans ma bulle familiale. Puis, si on marche chacun 5 mètres, on n'a pas l'air de marcher ensemble, puis on peut se parler de temps en temps. Je ne sais pas c'est quoi la formule, mais c'est sûr que les policiers vont pas vous arrêter.
C'est ça. J'ai retenu que la police ne me chalera pas. Merci, Dr Poirier. Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir, Dr Alain Poirier, qui est le directeur de la santé publique en Estrie.